Le Sonic Pro Brest, c'est la version brestoise d'un festival francilien qui s'appelle le Sonic Protest, qui fête sa 15e année. C'est en ce moment, en fait, c'est en train de se dérouler à Paris et dans les départements autour. Donc c'est un festival qui s'est fait un peu une renommée parce qu'il défendait des musiques incongrues, des choses très originales, des choses expérimentales, même s'ils n'aiment pas ce mot. Ils se définissent comme non normés, c'est-à-dire qu'ils essayent d'aller dans d'autres directions que ce qu'on peut écouter à la radio. Et chaque proposition artistique du festival est très unique et très singulière. Donc on peut vraiment y trouver de tout, quoi.
Et du coup, l'idée, c'était de faire une version brestoise où on prend à la fois une partie de la programmation du festival francilien et avec l'ensemble des partenaires du festival brestois, on ajoute aussi une programmation choisie par les Brestois.
Du coup, ce festival, il est organisé par 8 structures brestoises. Alors, comment elles ont fait pour se rencontrer, ces structures, et d'où leur est venue cette idée de lancer ce Sonic Pro Brest ?
Sont concernés par le Sonic Pro Brest Bad Seeds Record Shop, le disquaire Place Guérin, La Carène, la Cour des Miracles, le Festival Invisible, Kergalov, le Centre d'Art Contemporain Passerelle, Plage Magnétique et Tacle.
Et du coup, à la base, en fait, c'est une envie de Kergalov, dont certains membres sont depuis longtemps en lien avec Sonic Protest, Arnaud Rivière. Et il se trouve que quand on a commencé à travailler sur l'idée de faire une soirée avec une programmation de Sonic Protest, Arnaud Rivière nous a informé qu'en fait, Plage Magnétique avait aussi prévu de faire une soirée. Donc on s'est dit, bon, bah, autant travailler ensemble. Donc on a commencé à bosser ensemble là-dessus, à réfléchir à un petit format. Et puis la Karen a entendu parler du projet, a voulu s'intégrer. Avec Kergalov, on avait déjà l'envie à la base d'associer d'autres structures, dont la Cour des Miracles, Festival Invisible et Tacle, pour programmer la soirée. Et du coup, ça a fait beaucoup de monde. On a associé Passerelle parce qu'on avait un groupe, Stum, qui est un duo autrichien, qui, quand on l'a écouté, on s'est dit tout de suite qu'on voulait le mettre dans l'espace de Passerelle. Donc on allait les voir, ils ont tout de suite adhéré au projet.
Sachant que c'est des structures qui organisent des concerts pendant toute l'année, mais qui ont chacune leur propre identité artistique. Et là, en fait, tout le monde s'est réuni derrière la vision artistique du festival Sonic Protest. Donc pour beaucoup de ces structures-là, c'était l'occasion de programmer des choses qui sortaient un peu de l'ordinaire pour eux.
La musique non normée, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais vous pourriez la décrire comment ? Ça a plusieurs styles aussi ?
En fait, ce qui définit la musique non normée, c'est qu'elle est complètement indéfinissable. Donc mettre des mots là-dessus, c'est forcément compliqué. Comme je disais, je pense que chaque groupe a une identité artistique très forte, mais qui peuvent quand même éventuellement se rattacher à certains styles. On a des choses très différentes, en fait, dans le festival, c'est très diversifié. On a vraiment des choses qui sont basées sur l'écoute, où vraiment on s'assoit et puis on écoute de l'onde sonore. Il y a des choses qui sont beaucoup plus dansantes. Il y a des choses avec des instruments, il y a des choses avec des machines. Il y a des propositions hyper minimales et d'autres qui sont très riches musicalement. Donc on navigue entre plusieurs choses. Par exemple, on a un groupe qui mélange du krautrock, donc qui est un style de rock allemand des années 70, qui mélange ça avec de la dub. Y a un groupe qui va faire des claquettes, et il y a quelqu'un qui fait du trombone à côté. Y a un groupe qui va faire quelque chose d'un peu plus techno, mais mélangé avec de la noise. En fait, ça part dans tous les sens, quoi.
En fait, le terme de musique non normée, parce qu'on nous demande souvent ça, c'est un peu une manière de décrire une musique qui veut s'affranchir des étiquettes, en fait. On peut, comme disait Max, dire il y a du kraut, il y a du dub et il y a de la noise, mais en fait, c'est ni l'un ni l'autre, c'est un peu tout en même temps et c'est un nouveau truc indéfinissable. Et ça correspond à une esthétique globale qui n'est pas liée que à la musique, et c'est ce qu'on a voulu montrer aussi avec le festival, où on fait les choses différemment de ce qu'on attend d'habitude. C'est un festival qui se passe jamais au même endroit, donc qui a lieu dans plein d'espaces différents, avec plein de partenaires différents qui ont des statuts aussi très différents, parce que entre Plage Magnétique, Kinsmack et la Cour des Miracles, qui est une association qui organise des concerts pendant toute l'année dans les bars à Brest, il y a vraiment une grande différence, mais on a réussi à se retrouver sur ce projet-là, et c'est vraiment l'idée de montrer que pour une fois on fait les choses sans le cadre qu'on peut attendre d'habitude.
Et puis même au niveau des émotions ressenties, c'est très varié. Il y a des choses qui sont très sérieuses et d'autres qui sont complètement débiles. Il y a des choses assez tristes et il y a des choses vraiment drôles. Donc l'idée, c'est vraiment de se débarrasser de toute notion préétablie, en fait, et de faire voler ça, quoi.
Alors du coup, c'est des groupes brestois qui vont être présentés pendant ce festival. Où vous avez été les chercher et pourquoi vous les avez choisis aussi ?
En fait, quand on a fait la programmation, on voulait inviter des choses qui jouent très rarement à Brest. Donc je crois qu'il y a une formation brestoise, Mimosa, qui est une DJ de Brest, qui est une activiste du It Yourself, qui a joué dans toute l'Europe ces 20 dernières années, et qui habite à Brest depuis peu. Mais on a des groupes de Belgique, on a un groupe autrichien, on a des groupes de toute la France. Mais c'est un festival de découverte dans le sens où la majorité de ces groupes n'ont jamais joué à Brest.
Et c'est important de présenter ce type de programmation à Brest. Est-ce que ça s'inscrit aussi bien dans l'identité de la ville ?
Je pense que le festival, il est un peu dans la continuité de ce qui a été fait à Brest ces dernières années, via le travail des différentes structures ou associations, ou encore des personnes qui organisent des concerts. En fait, c'est aussi un milieu où les musiciens organisent des concerts, et on est vraiment sur un mode horizontal, en fait, où à Brest, en fait, depuis plusieurs années, il y a un mouvement où il y a des lieux qui se sont créés, il y a beaucoup de groupes qui se sont créés. Ça a créé une dynamique où Brest, maintenant, est un peu sur la carte des groupes de cette musique-là. Quand ils font des tournées en France, ils viennent jouer à Brest. On est parti de vraiment rien, je pense, il y a 10 ans. Et en fait, au fur et à mesure de travailler sur ces différentes questions-là, il y a un petit quelque chose qui s'est développé. Et le Sonic Pro Brest, il se met dans cette ligne-là, en fait.
Et je pense que à Brest, les gens sont assez curieux et friands de choses improbables, pas connues, indéfinissables ou étranges. Et je pense qu'ils ont leur public. Et comme dit Max, on le voit dans les concerts qui sont organisés dans les milieux alternatifs. Il y a du public, les gens, ils aiment bien découvrir des groupes et puis ils se tiennent même informés, enfin ils suivent, je pense. Et on était aussi contents parce que, bon, Brest, la situation géographique fait que justement ça a été, je pense, assez long de s'inscrire dans cette boucle et ce trajet des groupes qui font leur tournée. Et du coup, on est contents de pouvoir monter ce festival et ramener des choses qui se déplacent pas souvent en France, quoi, et qui viennent jusqu'à Brest, et ça, c'est cool.
Vous n'avez pas prévu de faire que des concerts avec ce festival, donc vous avez prévu de faire quoi aussi ?
Effectivement, on a autre chose que de la musique, parce que ce qu'on va appeler les musiques non normées, donc, en fait, elles incluent beaucoup de choses autres, parce qu'il y a aussi un esprit de do-it-yourself et de réflexion par rapport à ce qu'on fait. Alors, il y aura notamment un workshop sur 2 jours de lutherie électronique qui sera animé par Côte du Drone. Donc, qui est un luthier électronique, brestois, je dirais ça, qui est aussi un musicien, un bidouilleur, quoi. Et donc, il y aura un atelier pendant 2 jours à l'UBO Open Factory, donc c'est le jeudi après-midi et le vendredi après-midi, où il y a l'opportunité, en fait, de créer sa propre pédale de délai, donc de créer son propre instrument, et de comprendre comment fonctionne un instrument électronique, en fait. Parce que beaucoup d'instruments, même dans la programmation, en fait, on a invité des groupes qui créent leurs instruments, comme c'est le cas de Lemons. On voulait vraiment insister sur ce côté débrouillard, en fait, de ces musiques-là. Il y aura également une rencontre le jeudi midi à la salle du Clous, avec plein d'intervenants. Il y a des musiciens, il y a des techniciens son, il y a des organisateurs, il y a des chargés de prod, des communicants, voilà, autour de ces musiques-là, pour discuter un peu du passé, de l'avenir, de la situation actuelle de ces musiques.
On voit ça comme un moment d'échange et de discussion où justement tous les gens qui se posent la question « Mais qu'est-ce que c'est les musiques non normées ? Et qu'est-ce que vous avez voulu faire ?» c'est le moment d'en discuter, en fait. C'est vraiment informel et voilà, enfin, je pense que à chaque fois qu'on nous pose la question, c'est pas vraiment non plus comment répondre, et du coup, c'est une bonne occasion d'essayer de trouver des réponses à ces questions-là.
Pour présenter le festival, vous avez choisi un visuel qui parle de la météorologie. Alors pourquoi ce choix ?
C'est Kergalov qui a créé l'affiche, dont le graphiste Florian Stéphan travaille un peu sur ces thématiques-là dans son travail. La météo, on l'a choisi pour différentes raisons. Déjà, on était assez intéressé par l'idée qu'à Brest, il y a 10 temps différents, temps de météo différents dans la journée, et que le festival étaient un peu sur le même credo en fait, des choses très différentes qui vont, qui viennent des éclaircies, des averses. Et aussi le fait qu'à Brest, donc il y a tout le temps ces changements de temps, mais on a, moi j'ai un peu l'impression que les gens s'en foutent. Enfin, si pleut ou s'il y a du vent ou s'il y a des explosions d'UV, tout le monde est genre là, ouais c'est comme ça et on subit, mais personne se plaint. Donc c'est aussi un peu, ça peut traduire une espèce de caractère brestois où en gros on prend les choses comme elles viennent quoi. On peut aussi mettre ça en lien avec la curiosité qu'a le public ici. Donc l'idée venait de là.
C'était une façon de donner une identité en fait et de pas juste faire un Sonic Protest version brestoise, mais de devenir Sonic Pro Brest et de rire de notre situation géographique et de ce que peuvent dire les gens qui ne connaissent pas Brest. Enfin, et c'est vrai d'ailleurs, bon, même si là ça fait 3 jours qu'on a un soleil éclatant, mais... Voilà, c'était un petit clin d'œil, autodérision.
Du coup, est-ce que vous pouvez rappeler les dates du festival et aussi s'il y a des passes aussi pour aller au festival ?
Donc le festival, il a lieu les 3, 4 et 5 avril. Il y a un pass festival à 15 euros qui donne accès à l'ensemble des concerts pendant les 3 journées. Sachant que les 3 concerts payants sont en fait le concert au Vauban, le concert à Passerelle et la soirée chez l'habitant du vendredi soir. Et sinon, toutes les autres propositions sont gratuites ou à prix libre. Et les concerts à l'unité sont à 5 euros à Passerelle et chez l'habitant et entre 5 et 10 euros pour la soirée au Vauban. Du coup, si vous comptez faire toutes les soirées, ça vaut complètement le coup de prendre le pass.
Et du coup, concert chez l'habitant, c'est le grand mystère.
C'est un semi-mystère à la brestoise, on va dire. Disons que beaucoup de Brestois savent ce que ça signifie, un concert chez l'habitant en périphérie brestoise, smack de Guilherme.
Mais si vous ne savez pas où c'est, la bonne solution, c'est d'aller aux autres concerts et de demander. Et là, tout le monde vous le dira, sachant qu'il y a aussi l'information un petit peu cachée sur le site internet du Sonic Pro Brest, sur sonicprobrest.org.